Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Je me demande tout le temps ce qu'un psy dirait si je lui racontais ce que je fais dans les réseaux. Est-ce qu'il pourrait m'aider à comprendre pourquoi je passe des heures à farfouiller dans Instagram pour garder les photos des gens sans jamais y poster aucune photo? Pourquoi mon cœur se met à battre quand j'écris un tweet et que je vois les notifications commencer à affluer? Mais je sais bien que je ne suis pas le seul dans ce cas à avoir des comportements bizarres et à me poser des questions. Je pense que tout ça n'est pas anodin, que ça s'entrechoque avec notre psyché, que ça dit des choses de nous, des choses nouvelles peut-être. Et puis, j'imagine que les psys doivent entendre des choses dans leur cabinet. Les gens doivent leur parler de leur vie numérique, des situations nouvelles qui créent du plaisir, de l'angoisse, du mal-être.
De la porte.
Bon, j'en étais là quand j'ai lu un livre qui m'a donné envie de rencontrer son auteur. Le livre, c'est « Je, une traversée des identités ». Un livre qui décrit notamment l'émergence d'un nouveau narcissisme à l'ère numérique, un narcissisme à la fois partagé par tous et enfermant, angoissant, un livre à la fois théorique donc, son auteur Clotilde Guil est prof dans le département de psychanalyse de Paris 8, et pratique, parce que Clotilde Guil est aussi psychanalyste, elle exerce, elle écoute des gens, et ça se sent.
Le code a changé.
Je dois avouer que je ne suis pas très familier des cabinets de psy. Celui de Clotilde Le Guil borde une grande avenue au centre de Paris. Il est très agréable, pas très grand. Elle est assise dos à une fenêtre qui donne sur la rue. Soit on se tient en face d'elle, un joli bureau en bois entre nous. Soit on peut manifestement s'allonger sur le canapé. Il y a d'ailleurs accroché au mur un grand portrait sur lequel je crois reconnaître Jacques Lacan. L'analysé parle donc avec Lacan dans le dos. C'est pas rien. Et nous voilà donc dans son cabinet. Avec deux techniciens de Radio France, tous les trois assez intimidés, il faut le reconnaître. Dans ce cas, on fait comment? On commence par quoi? Par le narcissisme, parce que c'est le sujet de son livre, mais aussi parce que c'est une évidence quand on fréquente les réseaux. Les gens y parlent d'eux. Et personne ou presque n'y échappe. Hein. On annonce des naissances, des morts, des amours nouvelles ou achevées. On se photographie, ses amis, son intérieur, ses vacances, etc. Et d'ailleurs, même quand on croit qu'on se refuse à y parler de soi, par exemple, en postant que des trucs drôles ou au contraire très intelligents, eh ben on adopte une posture qui dit quelque chose de soi, on parle de soi en creux. Mais bon, est-ce que pour autant, la notion de narcissisme est la plus apte à qualifier ce penchant? Parce qu'il y a toujours une connotation négative quand on parle de narcissisme. Mais Freud et Lacan, ils ont bien dit que le narcissisme, c'était une étape nécessaire de la construction de soi. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on est tous devenus d'affreux petits êtres jouissants de leur image?
L'appel au regard de l'autre et l'exhibition de sa vie à partir d'images, de moments de sa vie, s'inscrit dans une logique narcissique qui n'est pas pour autant à condamner.
Ça, est-ce que c'est grave? C'est la question que
on se pose. Pas du tout. C'est-à-dire que par contre, on a le droit de réfléchir à cette logique. Moi, ce que je peux observer, c'est que cette logique narcissique, elle est aussi source d'agressivité, de rivalité, de mise en concurrence des individus les uns avec les autres, à partir justement de cette exhibition, finalement, de tout ce qu'on a. Cette exhibition des objets, on pourrait dire, de jouissance. Hein, parce que finalement, ce qui est montré, en fait, dans cette exhibition de la vie, c'est à quel point on jouit de la vie, à quel point on est heureux, à quel point on n'est pas concerné par le manque. Évidemment, on poste plutôt des moments joyeux, et c'est très bien, voilà. Mais il faut voir ce que ça renvoie et quel effet ça a sur le rapport à l'autre, finalement. Ouais. Hein, ça crée quand même quelque chose de l'ordre d'une mise en concurrence des individus les uns avec les autres.
Mais pourquoi le fait de montrer une image de soi produit mécaniquement une mise en concurrence?
Déjà, on peut le constater par le fait que la réponse au fait de poster une image de sa vie, c'est par exemple un certain nombre de likes. Ouais. Eh bien, les likes, ça se compte. C'est pas une réponse qui apporte un sens, c'est pas une rencontre. C'est « Ah, combien on a eu de likes ?» Donc déjà, compter les likes, finalement, cette attente du fait d'être plébiscité, finalement, par l'autre, c'est une demande de plébiscite quand même, cette attente, non seulement elle met un peu en concurrence les individus les uns avec les autres, mais elle est source aussi d'angoisse.
Angoisse, vraiment? Bon, qu'on stresse un peu, que ça provoque des moments de tension, je veux bien, mais de l'angoisse. Bon, en même temps, il faut jamais oublier que les psys, ils parlent des gens qui viennent les voir, donc des gens qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent. Donc, ok, allons-y pour l'angoisse. Mais dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce qui les angoisse vraiment, ces gens qui viennent parler aux psys. Je veux des situations.
Cette angoisse, on la voit parce que ça modifie quelque chose dans le rapport à l'autre, avant qu'il y ait Internet. Vous laissez un message sur un répondeur téléphonique, vous ne savez pas quand est-ce que l'autre l'a écouté. Vous ne savez même pas s'il l'a écouté. Aujourd'hui, avec WhatsApp, un sujet amoureux est pris d'une angoisse terrible à l'idée que, par exemple, non seulement il sait quand l'autre a lu son message, mais il sait qu'il l'a lu et qu'il ne répond pas, et même qu'il l'a lu parfois et qu'il se déconnecte. Vous imaginez l'angoisse ?
Il vous en parle ?
Et bien sûr. Bien sûr que
parce
les sujets
parlent de ça. Est-ce qu'il vous demande de l'aider à comprendre ou c'est juste pour dire son angoisse?
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, si on réinscrit ça dans le rapport à l'autre, parce que ça touche pas, on n'est pas en psychanalyse, simplement dans une analyse des effets des technologies, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en tout cas que ça nourrit et ça augmente l'angoisse concernant les questions qu'on se pose sur les intentions de l'autre. Est-ce que l'autre m'aime? Est-ce qu'il me désire? Est-ce qu'il me rejette? Voilà, c'est toutes ces questions qui finalement ne laissent aucun répit au sujet.
C'est ça la différence, en fait, parce que ces questions-là se sont toujours posées. Enfin, en amour, la différence, c'est qu'elles sont permanentes, constantes.
C'est ça. Et cette dimension de connexion perpétuelle qui crée quand même un état, en fait, de sollicitation libidinale constante. Et là, il y a un effet quand même qui peut être assez ravageant. Je parle évidemment dans le cadre de problématiques d'inquiétude, de souffrance, d'angoisse, voilà, qui nous intéressent en tant que psychanalystes.
En écoutant Clotilde Gil, je me dis qu'on rêverait de lire de nouveaux fragments d'un discours amoureux, mais à l'ère numérique. Parce que ce que Barthes raconte de l'attente d'un coup de téléphone, par exemple, c'est très beau, mais ça correspond plus vraiment à notre expérience, ou en tout cas, pas comme ça. Barthes, il écrit « L'angoisse d'attente, dans sa pureté, veut que je sois assis dans un fauteuil à portée de téléphone sans rien faire. » Bah, on voit bien que l'expérience qu'on a du téléphone dans le cadre amoureux, aujourd'hui, ça ne se limite pas à attendre dans un fauteuil un coup de fil de l'être aimé. C'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudrait raconter tout ça. Mais il y a une autre expérience du registre amoureux qui m'intéresse. C'est la rupture. Parce que dans les récits qu'on peut lire ou entendre sur la rupture amoureuse aujourd'hui, je remarque des stratégies hyper complexes et subtiles. Il y a ceux qui veulent continuer à voir ce que fait l'autre, d'autres qui voudraient voir et ne peuvent plus parce qu'ils ont été bloqués, par exemple, d'autres qui ne voudraient plus voir et voient encore. Bon, il y a tout ça. Mais la question fondamentale, au fond, elle est simple. Est-ce qu'on se sépare vraiment de quelqu'un quand on continue à le regarder vivre dans les réseaux ?
La séparation avec l'autre suppose aussi de se séparer de l'image de l'autre. On se sépare aussi de tout ce qu'on peut savoir sur la vie de l'autre. Or là, il y a une nouvelle possibilité. C'est de savoir des choses sur la vie d'un autre ou d'une autre dont on peut avoir été séparé de façon douloureuse dans le cadre d'une relation amoureuse. Mais finalement, ce qu'offre Internet, c'est une sorte de déversoir à la pulsion, parce qu'il y a quand même une pulsion là qui est sollicitée, puisqu'on peut continuer à savoir avec qui l'autre est, ce qu'il fait, comment il jouit, est-ce qu'il souffre, est-ce qu'il est malheureux. En fait, finalement, derrière tout ça, il y a une question fondamentale sur le manque. Et au lieu que finalement que cette question se formule via la parole, est-ce que je manque à l'autre ? Eh bien, finalement, elle est en quelque sorte agie par cette recherche, par exemple sur Facebook, et qui au bout d'un moment conduit quand même, enfin, les sujets qui viennent en analyse, à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui finit par les détruire.
On va arrêter 5 minutes avec l'amour. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je voudrais tester une hypothèse un peu tordue. Après tout, si Internet est un lieu d'expression des pulsions, bon, et même plus simplement un lieu où on s'exprime, où on se raconte, on pourrait imaginer que ça nous aide, que ça fasse sortir des choses qu'on a en nous, des choses qu'on n'exprimerait pas dans d'autres conditions. C'est un peu l'idée que défendent les adversaires de l'anonymat ou du pseudonymat. Ils disent... Quand les gens se cachent derrière leur clavier, leur pseudo, ils se lâchent, ils se permettent ce qu'ils se permettraient pas de dire s'ils parlaient en leur nom. Bon, c'est une idée qui est pas complètement juste factuellement, parce qu'en fait, les gens disent autant d'horreurs quand ils s'expriment en leur nom, les statistiques le montrent. Mais On pourrait aussi envisager que c'est pas si mal de se lâcher dans les réseaux, que ça fait du bien, que ça pourrait dispenser d'aller voir le psy. Je teste l'hypothèse.
Un sujet qui vient en analyse, à un certain moment, s'aperçoit que les questions qu'il a à se poser sur son existence, la recherche qu'il a à faire, elle restera secrète. Elle ne se partagera pas avec quiconque. Okay. Donc là, je dirais que ça, c'est une différence fondamentale. Ce qui est quand même assez extraordinaire dans la psychanalyse, c'est que on crée un lieu, c'est Freud qui a inventé ça, hein, c'est l'invention d'un lieu où on peut tout de même parler à un autre de ce dont on ne peut parler à personne. C'est précieux.
Ouais, donc c'est l'inverse d'Internet qui est ne parler à personne de ce...
Parler à tout le monde, finalement, de essayer de parler à tout le monde, effectivement, de ce qu'on n'arrivera pas finalement à partager.
D'accord.
Hein, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'utopie aussi du partage. Hein, je crois que ça, c'est propre, en fait, aux réseaux sociaux. Hein, cette espèce d'utopie du partage qui est, d'une certaine façon, très jolie. Peut-être que finalement, les réseaux sociaux ont quelque chose, ce sont des avatars de l'utopie communautaire des années 70. Hein, il y a quelque chose comme ça, puisque ça crée aussi des communautés qui se regroupent autour d'un trait d'identification, une façon de manger, une façon d'une vie sexuelle, une identification, voilà, un trait particulier. Donc, ça, c'est aussi ce que Freud et Lacan entendent par logique narcissique. Une logique narcissique au sens « nous sommes tous semblables, nos moi sont identiques et nous partageons finalement ensemble notre être ». Voilà. Alors que la démarche analytique consiste à accepter qu'il y a quelque chose de profondément singulier en soi et à l'assumer finalement, à ne pas penser qu'on va pouvoir le retrouver chez l'autre, qui n'est pas pour autant un défaut, mais qui ne peut pas être partagé avec tout le monde, qui ne peut pas être partagé dans la conversation commune, qui ne peut pas être partagé sur Internet, mais qui a à être dit dans des conditions très particulières de parole, qui donne un statut à la parole aussi très privilégié et très précieux.
Ah ouais, j'aime bien cette idée. Cette idée d'une antinomie fondamentale entre la démarche analytique et Internet, entre la singularité que postule l'analyse et ce principe de communauté qui est super puissant dans les réseaux.
Et tu ne décroches plus, ça m'écorche. Je m'efforce de rester fort, à la porte esselée. Tu m'as laissé sonner, pas pour me réjouir, mais je sais que c'est moi qui lasse. Ton cœur n'aime pas le faux, mes excuses font pas d'effet. Je ferai tout ce qu'il faut pour faire un état de compte de fait. Je me demande parfois pourquoi tout se perd fort alors que c'était parfait. S'il te plaît, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, je sais que t'en as assez de ma voix qui déraille dès que je te parle de mon ex sans faire le vide en moi. Il suffit d'un mot de travers pour que la discussion dérape, parce que la peur de réavoir mal prend toute la place. Tu as perdu confiance, j'en ai bien conscience. Pourtant mes yeux ne mentent pas, les jours n'ont plus de contours. Je ne sais plus quand la nuit me passe, mes joues deviennent toutes rouges quand je te déshabille du regard. Donc s'il faut attendre pour à nouveau s'étendre sur le canapé ensemble, j'attendrai si on s'aime. Oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime. Oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, reviens-moi. Ton parfum qui m'entoure, c'est bien plus qu'une armure, mon amour. Si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on
Le code a changé.
France Inter.
Je voudrais soumettre une autre hypothèse à Clotilde Guil, un peu moins tordue que la précédente. On parle beaucoup de surveillance avec les technos. Bon, c'est une réalité, hein. On est surveillé, on le sait depuis longtemps, les révélations de Snowden n'ont fait que confirmer spectaculairement, beaucoup d'États exercent une surveillance de masse sur leur population via les réseaux. Les États ne sont pas les seuls, hein. Les entreprises aussi le font à des fins commerciales. Mais il y a aussi un phénomène qu'on appelait, il y a quelques années, la sous-veillance, c'est-à-dire la surveillance de tous par tous, une surveillance entre pairs. Alors, c'est pas forcément une surveillance active, mais de fait, la partie de notre vie qui se déroule dans les réseaux, ben, elle se déroule sous le regard des autres. Pas forcément avec de mauvaises intentions, d'ailleurs, mais combien de fois j'ai entendu des gens dire « Ah ouais, j'ai vu sur Instagram que Bidule était en week-end à Deauville », ou alors « Oh là là, j'ai vu la photo là que machin a posté de ses enfants le jour de la rentrée, ils étaient impeccables, super mignons, super bien habillés, ça m'a donné mauvaise conscience. » Et donc, je me demande s'il se peut que ces réseaux soient une nouvelle forme de surmoi. C'est-à-dire que ça nous impose des normes de représentation de soi, mais aussi des normes de comportement. Il faut dire ça et pas ça, il faut être comme ci et pas comme ça. Une sorte de standardisation de la vie, bon, qui j'avoue m'effraie un peu. Et donc, je me demande si les réseaux n'agissent pas comme un nouveau surmoi. Et d'ailleurs, Freud, il le définit comment, le surmoi ?
Freud le définit très joliment en disant que c'est comme si on avait sans cesse quelqu'un qui nous observait à l'intérieur de nous, et chacun en fait l'expérience, et qui dit, bah là, c'est bien, là, c'est pas bien, bon, voilà. Donc ça, c'est la logique du surmoi freudienne. Mais quand même, le monde a changé depuis Freud. Le surmoi n'est plus du tout le même. Donc la théorie de Lacan, qui était quand même assez en avance sur son temps, parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment qu'on a affaire à ça, c'est que le surmoi n'est pas seulement le garant du respect des interdits et des normes de la civilisation en nous, mais que le surmoi est aussi, aujourd'hui, enfin, prend aussi la forme des nouveaux impératifs de la civilisation. Et on peut pas dire qu'aujourd'hui, en Europe, on soit dans une civilisation répressive comme au temps de Freud. On n'est plus au temps de l'Empire austro-hongrois. Enfin, suite à toute une logique capitaliste, on est à une époque où l'injonction est quand même une injonction de jouissance. Voilà. Donc, finalement, en étant sans cesse en attente de commentaires de l'autre, de jugements de l'autre, de likes, on se soumet aux normes de l'autre. Voilà. On se soumet aux normes de l'autre, quelles qu'elles soient. Ça peut être des normes qui poussent à jouir plus, mais on se soumet aux normes de l'autre. Et finalement, ce qu'on oublie, c'est là qu'est la faille, c'est là qu'est quand même le danger, hein, ce qu'on oublie, c'est son désir à soi. Hein, c'est-à-dire que ce désir, il se noie dans toute cette logique pulsionnel et narcissique, et finalement, à la fin, c'est l'effet qu'on a quand on sait plus ce qu'on cherchait. C'est-à-dire que le désir est écrasé.
Bon, elle y va peut-être un peu fort, mais pourquoi pas. Alors, l'écrasement du désir, ça peut être un des risques, mais prenons le cas de quelqu'un d'un peu fragile. Qu'est-ce qui peut vraiment l'atteindre dans tout ça ?
Le piratage des comptes mail. Bon, on a tous vécu ça. Recevoir tout d'un coup un mail de menace. Mais il y a des sujets que ça angoisse terriblement. Ouais. Parce que nous, en psychanalyse, ce à quoi nous nous intéressons, c'est au rapport à l'autre. Son rapport au désir et son rapport à l'autre. Et finalement, tous les modes de communication qui sont rendus possibles par le monde virtuel permettent comme ça à la figure de l'autre, éventuellement d'ailleurs de l'autre méchant, quand c'est un compte piraté, de faire effraction dans la vie d'un sujet et de susciter de l'angoisse.
Mais de manière plus violente qu'il ne pouvait faire effraction auparavant, parce que l'autre, il peut toujours plus faire effraction dans la vie des gens. Enfin,
moi, je ne fais pas d'études statistiques, hein, donc je ne vais pas dire plus violente, oui, ça a été prouvé, on a observé qu'avec des groupes témoins, etc. Je vois juste que les sujets témoignent de ça.
C'est intéressant cette question de l'entrée de l'autre par effraction et ce que ça produit. Parce que je pense que ça permet de répondre à une question qui est assez fondamentale. Pourquoi on ressent avec une telle violence les mails désagréables ou les commentaires désagréables ou les tweets désagréables qui nous sont adressés ? Pourquoi on n'arrive pas à ne pas y répondre ? C'est une question que je me suis souvent posée quand je travaillais à Rue 89. Rue 89, c'est un site d'information qui, à sa création, reposait sur la participation des lecteurs, qu'on appelait d'ailleurs les riverains. Et de fait, il y avait une communauté de lecteurs qui commentaient énormément et souvent de manière assez dure. Et le week-end, on se succédait pour assurer le fonctionnement du site. Et un des boulots, c'était la modération des commentaires. Et à la fin du week-end, ce qui pesait le plus, c'était pas d'avoir dû écrire ou mettre en ligne des papiers, c'était d'avoir dû lire des centaines de commentaires, dont beaucoup étaient affreux. C'était pénible au point qu'on en venait à détester l'humanité, et parfois d'ailleurs à devenir violent soi-même dans les réponses. Et donc, je me suis toujours demandé ce qui se jouait là. Mais si ça met en jeu le rapport à l'autre, ben ça offre aussi des possibilités. Parce que on peut se présenter sous différentes formes à l'autre. Et souvent d'ailleurs, je repense à mon adolescence qui a eu lieu dans un monde pré-numérique. Donc, comme beaucoup d'adolescences, la mienne, elle a consisté à me rêver chaque matin une nouvelle personne. Hein. Un jour j'étais Rimbaud, un autre jour j'étais un espoir du tennis français. Le week-end, évidemment, j'aurais rêvé d'être un Minet qui emballe les filles. Bon, le problème, c'est que l'extension du transformisme était limitée par ma garde-robe et par le fait que mon réseau amical était relativement stable et restreint. Alors, souvent, je me dis que si j'avais grandi dans les réseaux, j'aurais pu expérimenter ces différentes personnalités, j'aurais pu en jouer. D'où la question que je me pose, est-ce que cette possibilité que donnent les réseaux de jouer avec les identités, de jouer avec les comptes, avec les pseudos différents, est-ce que cette possibilité modifie ce processus fondamental de la constitution de l'identité au moment de l'adolescence ?
Je pense pas que ça modifie, je pense que c'est une modalité qui est là, qui est présente, effectivement. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment un adolescent, finalement, essaye de construire quelque chose ou essaye de traverser une situation en se servant éventuellement de l'image, justement, qu'il montre de lui sur les réseaux sociaux ou de ce qu'il cache. Certains sujets qui, parfois, ont des relations compliquées douloureuses avec leurs semblables présents, encore, avec leur corps, justement, le monde virtuel, parfois, les soulage, les allège, parce que l'autre n'est pas présent avec son corps. Vous voyez bien que c'est plus facile de répondre rapidement à quelqu'un par un texto, c'est pas la même chose que de lui téléphoner ou de lui parler, et puis c'est pas la même chose que de le voir. Si vous décommandez un rendez-vous par texto, c'est pas la même chose que si vous téléphonez à la personne pour lui expliquer que vous pouvez pas venir. Ouais. Le texto permet de mettre entre parenthèses quelque chose du corps, d'une certaine façon. Et donc, pour certains sujets qui ont du mal, finalement, à prendre place dans le monde avec leur corps sexué, là, pour le coup, le monde virtuel peut aussi représenter une façon de se sociabiliser qui les inscrit quelque part.
Ah, le corps. Ça me fait penser à un truc. J'ai entendu parler de gens qui suivaient une analyse par Skype. Alors, soit temporairement, pour cause d'un long séjour à l'étranger, par exemple, parfois plus durablement. Et donc, je voudrais savoir si, pour Clotilde Guil, il est possible de mener une vraie psychanalyse par Skype.
Pour ma part, en suivant, disons, ce que j'ai appris à partir de Lacan, ce n'est pas possible.
Alors, pourquoi c'est pas possible ?
Eh bien, quelle est la différence entre parler avec un autre par Skype et parler avec un autre dans un cabinet ? Justement, le corps n'y est pas. La voix, d'une certaine façon, mais enfin, quand même dématérialisée, parce que la voix n'est pas là avec le corps. Elle est en quelque sorte détachée du corps. Et enfin, je trouve que c'est très intéressant comme question, parce que justement, ça permet de préciser ce qu'est la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une expérience de parole, mais avec le corps, pas sans le corps. C'est pas juste une expérience de recherche, même intellectuelle, de connaissance de soi. Ça passe par le corps.
Et le voir, ça suffit pas ?
Non, mais en plus, la psychanalyse est quand même fondée, dans sa version classique, sur une mise entre parenthèses du regard. Donc, ça peut pas être fondé sur le voir. Après, on peut tout à fait faire une analyse en face à face. Mais ce qui compte, c'est la présence du corps. Ça, c'est une première chose très importante. Et la deuxième chose, c'est que le travail dans l'analyse passe aussi par l'interprétation. Mais l'interprétation, c'est aussi la coupure, c'est aussi l'interruption. Et c'est pas la même chose de faire une coupure en se déconnectant d'un entretien par Skype et de faire une coupure, justement, en s'extrayant d'un lieu où on a été avec son corps.
D'ailleurs, ça me fait penser à une série de photos postées sur Instagram par mon ami Philippe Mangeau. À chaque fois qu'il sortait de chez son psy et qu'il se retrouvait dans la rue, il prenait une photo, et la postait, un peu au hasard, pas vraiment au hasard. Souvent, c'était assez drôle. Et c'est évident qu'il n'aurait pas pu faire ça s'il avait interrompu sa psychanalyse sur son ordinateur par Skype. Bon. D'ailleurs, mon copain Philippe Mangeau, l'autre jour, il a fait une chose étrange. Il m'a appelé et il m'a dit « Pourquoi tu m'envoies une chanson de Bowie ?»« Bah quoi, je t'ai rien envoyé. »« Mais si, tu m'as envoyé un lien pour que j'écoute Under Pressure. » Bon, en fait, c'est lui qui m'avait envoyé ce lien. Bah, je sais pas comment, et lui-même d'ailleurs ne savait pas comment. Mais c'est assez fascinant, ces fausses manips. Une d'elles me fascine particulièrement. On écrit un texto un peu vide, bon. On l'envoie sans vérifier ce qu'on a écrit. Or, la correction automatique a mis un mot pour un autre, et à la place de « je t'embrasse », le téléphone a écrit « je t'emmerde ». Alors, la question, elle est la suivante. Sachant que les suggestions de mon téléphone sont faites à partir des mots que je tape le plus souvent, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit là d'un lapsus ? Et donc, qu'on doit l'interpréter comme tel ?
C'est très rigolo comme question. C'est parce que ça nous est tous arrivé. Oui. Voilà, ça nous arrive tout le temps. Voilà. Et puis, on ne peut pas rattraper quand voilà. C'est parti. Néanmoins, je pense qu'on ne peut pas en faire une règle. On ne peut pas dire que ça vaut un lapsus. D'abord parce que, effectivement, il y a cette suggestion qui va plus vite, en fait, que finalement le geste lui-même de taper le mot. Et ensuite, parce qu'on pourrait dire il y a lapsus s'il y a aussi une interprétation de l'autre. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si vous avez lu le roman de Pascal Bruckner qui s'appelle Un bon fils.
Ah non.
Bon, donc c'est un roman où il témoigne du bon fils qu'il a été par rapport au fait qu'il était habité par une haine viscérale à l'égard de son père, qu'il avait des bonnes raisons de haïr, je vous laisserai découvrir. Et donc, il parle à un moment de la fin de la vie de son père, et donc il lui envoie un message, son père est souffrant, il lui envoie un message, ce père qu'il hait, qu'il déteste, qui est un père qui a des opinions, le péniste, enfin qui a une espèce de personnage vraiment, qu'il dépeint en tout cas comme un personnage assez terrible. Donc il termine son texto en écrivant « Je t'embrasse » et ça va trop vite, « je t'aime ». Et le père reçoit voilà, ce message. Et il écrit là-dessus en disant que pour lui ça a été terrible parce que vraiment, il n'avait pas envie d'écrire ça à son père. Alors là, ouais. Je trouve que c'était intéressant parce que lui, il en a fait quelque chose. Il a écrit sur l'effet qu'a produit en lui justement ce raté technologique. Hein. Ouais. Alors on ne peut pas dire en fait, il voulait lui dire « je t'aime ». On ne peut pas,
dire ça.
Non, on ne peut pas dire ça.
Alors que s'il l'avait dit par la parole, on aurait pu le dire.
Voilà. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est intéressant tout de même qu'il le reprenne et qu'il explique pourquoi est-ce que ça a été pour lui finalement aussi une telle contrariété et presque une colère que cette déclaration d'amour soit partie alors qu'il n'avait pas du tout envie de la faire.
Mais pourquoi on ne peut pas dire que c'est pareil ? Pourquoi on ne peut pas dire que ce qui sort de ses doigts, c'est pas ce qui sort de sa bouche ?
Parce que d'abord, il y a quand même la question de la manipulation de l'outil. C'est-à-dire que quand on tape quand même sur des touches, ces touches qui sont très rapprochées les unes des autres, enfin, il y a quand même aussi une marge d'erreur. Disons, on a quand même le droit à une marge d'erreur technologique. On va pas, faut pas interpréter tout à tort et à travers. Here we go. 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 I don't want to be hiding no more. I don't want to be running no more. I just want to be cruising, oh, by the shore. I just want to be holding hands and more. And I just want to be free to ignore the hate you keep in store. Sweet addiction. Repetition. There's no to get stuck. Sweet addiction. To you, repetition. There's no. Your
I don't want to be running no more. I don't want to be hiding no more. I just want to be cruising, oh, by the shore. And I just want to be free to ignore the hate you keep in store.
Oh, sweet addiction,
yeah.
To you,
it's got the lights on.
Reputation.
J'en reviens au corps, parce que c'est important cette question du corps. Elle en parle tout le temps, Clotilde Guille. L'expérience numérique a quelque chose de particulier, c'est ce qu'elle fait du corps. Bon, il est représenté partout, mais absent physiquement. C'est-à-dire que dans notre vie numérique, on communique, on apprend, on jouit, on s'énerve, mais en l'absence d'autres corps. J'imagine que ça doit changer notre rapport au corps.
Ah oui, fondamentalement. C'est ça le paradoxe. D'un côté, il y a une sorte de mise entre parenthèses du corps par le monde virtuel. Hein, et d'un autre côté, il y a une réduction du corps à un organe qui est la vue, enfin l'œil. Hein, on pourrait dire la vue et le regard. Et donc ça, ça a une incidence. Oui, ça a un autre rapport au corps. D'avoir un rapport, disons, au corps pulsionnel, puisque c'est ce corps-là qui nous intéresse en psychanalyse, c'est pas le corps de la médecine, hein, c'est le corps pulsionnel. Mais d'avoir un rapport au corps simplement via l'œil et le regard, hein, c'est une modalité, disons, de rencontre avec l'autre, de jouissance tout à fait particulière.
Qu'est-ce que vous faites du doigt ? Parce que on interagit par le doigt, et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est digital.
Oui.
Donc il y a quand même deux choses qui rentrent en jeu. Il y a le regard, il y a le doigt.
Ah, j'ai pas pensé à ça.
Michel Serres, il appelle son livre La Petite Poussette, quoi.
Oui.
Pas à cause du pouce.
Oui.
Bon, c'est manifestement une impasse, cette question du doigt. Bon, évidemment, dit comme ça, ça pouvait paraître un peu trivial, voire vulgaire, mais enfin, quand même. C'est pas rien, le doigt, la main, le toucher. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû lui parler de toucher plutôt que du doigt. Sans vouloir valider l'hypothèse anthropologique selon laquelle on serait en train de surdévelopper nos pouces, hein, parce que c'est de ça dont il parle Michel Serres dans La Petite Poussette. Il parle des enfants qui, du fait du téléphone, se mettent à utiliser le pouce plus que l'index. Ben, quand même, c'est pas rien le toucher. Il suffit de regarder la manière dont certains caressent leur téléphone. Je trouve ça mais absolument fascinant. Par exemple, le vénérable Pierre Aski, chroniqueur international de la matinale d'Inter, il caresse son téléphone d'une manière très particulière, avec le plat de la main dans toute la longueur de l'écran. C'est très sensuel, hein. Mais bon, sans aller jusque-là, il y a toute la question de la manipulation de la machine qui est essentielle, par exemple, dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est pas simplement une expérience du regard, c'est aussi une expérience de la manipulation. D'ailleurs, c'est un critère de la jouabilité, hein. On ressent vraiment des trucs par les mains quand on joue, pas simplement la vibration de la manette, ça va largement au-delà. Bon, bah donc on n'aura pas d'éclairage là-dessus. Mais du coup, on peut quand même poser une autre question sur le téléphone et sa manipulation. Parce qu'on a presque l'impression que c'est un doudou, le téléphone. Est-ce qu'on peut donc considérer qu'il est comme un objet transitionnel, au même titre que ces objets dont le grand psychanalyste Winnicott dit qu'ils sont choisis par l'enfant comme des objets intermédiaires qui sont pas vraiment le corps de la mère, mais pas vraiment des objets extérieurs non plus ?
Oui, tout à
en
fait. Ben, je trouvais que c'était intéressant. Ben, d'abord parce que le téléphone, il est ce qu'il nous apporte, c'est avant tout la voix de l'autre.
Ouais.
Donc c'est une façon de pas se séparer de l'autre. Finalement, d'accord. De penser qu'on peut transporter avec nous la voix de l'autre.
Okay.
Donc, il y a quelque chose, effectivement, d'un objet transitionnel. Et ça, vous savez, Lacan en avait déjà parlé.
Ah
c'était,
bon
ouais, c'était dans un de ses séminaires dans les années, à la fin des années 60, en 69. Il parle de ce que lui a appelé l'objet petit a. Mmh. Il dit, bon, bah, pour l'enfant, c'est d'abord le sein. Après, c'est le doudou. Après, c'est la tétine. Et en fait, après, c'est un objet de l'industrie qui vient en fait à la place de cet objet qui lui manque.
Donc le téléphone peut s'inscrire dans la lignée
peut s'inscrire, mais on peut dire que le téléphone, dans la mesure où il est porteur de cette voix qu'on peut retrouver, cette voix de l'autre, cette voix qui nous manque, eh bien, il a cette dimension.
Donc c'est normal que la perte du téléphone produise un effet terrible.
En même temps, ça produit un effet terrible. En même temps, on observe, il y a la perte du téléphone et puis il y a aussi, je ne sais pas si vous avez observé ça, vous, dans votre entourage, mais il y a aussi le fait d'oublier son téléphone qui parfois crée un soulagement. Je pense ça aussi. Finalement, on l'oublie parce qu'il y a un moment où ça nous embarrasse aussi. Hein, sans cesse de devoir regarder, répondre, voir qui nous a écrit, qui nous a pas écrit. Et il peut y avoir aussi un besoin de se séparer.
Besoin de se séparer, on en revient toujours à ça. Mais ce qui est intéressant dans le fait que Lacan ait considéré qu'un objet de l'industrie puisse servir d'objet transitionnel, c'est comment la psychanalyse a dû intégrer au fur et à mesure les objets technologiques dans sa réflexion. Mais du coup, je me pose une question. Freud a vécu et travaillé au tournant du 19e et 20e siècle dans une période de très grande inventivité technologique. L'électricité, la voiture, l'avion, la radio et puis évidemment le téléphone. Freud a forcément dû parler du téléphone.
Dans Le malaise dans la civilisation, son texte de 1929, il écrit en fait sur le progrès technologique, il parle de l'invention du téléphone et il explique en fait que déjà le fait de pouvoir entendre la voix d'un être cher alors qu'on en est séparé par un océan, c'est déjà quelque chose qui change totalement le rapport à l'autre, à la séparation, à la jouissance. Ça modifie quelque chose du rapport à l'autre. Alors avant, on avait le téléphone qui était situé en un lieu particulier dans lequel il fallait se rendre. On ratait effectivement beaucoup d'appels, donc il y avait cette dimension quand même aussi du manque qui était encore présente. Mais là, finalement, dans cet appareillage constant du corps par des outils, il y a quand même tout d'un coup quelque chose qui manque. C'est le manque.
Alors, pourquoi c'est si important que le manque?
C'est très important, parce que justement, ce que Lacan nous apprend, et ce qu'on voit aussi dans l'expérience d'une analyse, c'est que c'est comme ça que Lacan définit l'angoisse. Voilà. L'angoisse, c'est le manque du manque. Parce qu'en fait, finalement, l'être humain, pour désirer, et là on n'est même pas simplement au niveau de la psychanalyse, là on est au niveau de la civilisation, l'être humain, pour désirer, a besoin d'éprouver un manque. Si on annule le manque, on est face à un trop qui écrase le désir. Okay. Donc, justement, le but d'une psychanalyse, c'est de pouvoir conduire le sujet à affronter cette angoisse par rapport au manque et finalement à s'apercevoir que le manque est le point depuis lequel il peut désirer.
Si cette hypothèse est vraie, ça devrait entraîner un autre effet. Je dis ça comme si c'était évident et mécanique, mais j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué. Mais disons que si Internet joue un tel rôle dans nos vies, on devrait en rêver. On devrait rêver d'Internet, de nos machines, de nos navigations. D'autant qu'on peut voir certaines similarités entre la manière dont on navigue sur le web, de lien en lien, et la manière dont fonctionne le rêve, ou plutôt son récit d'ailleurs. Pour ma part, je me souviens assez peu de mes rêves, mais dans aucun, je me souviens qu'il y a un ordinateur, un téléphone, un moment sur Internet. Ce qui est assez étrange quand même, parce que il m'arrive de rêver que je sais plus conduire, par exemple, ou alors que mon scooter a plus de frein. Mais jamais, dans mes rêves, je me perds dans Internet, ou je rêve que mon ordinateur fait n'importe quoi. En même temps, je suis pas en analyse, mais j'imagine que les personnes que reçoit Clotilde de Guil, elles doivent rêver d'Internet.
Ce qu'on peut voir dans un rêve n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur la toile. C'est deux formes de vision totalement différentes. Maintenant, un rêve, il est fait à partir aussi, comme disait Freud, d'éléments de la veille. Donc, il peut y avoir dans un rêve un texto, quelque chose d'écrit, bien sûr. Il peut y avoir dans un rêve un mail, bien sûr. Que dans la mesure où ça fait partie de... où on est appareillé à ces instruments, ils sont présents dans les rêves.
D'accord, pas plus que ça, quoi.
C'est-à-dire que, en tout cas, la dimension du message qu'on reçoit de l'autre peut se présenter comme ça dans un rêve.
Ok, pas ouf. J'aurais imaginé qu'elle me décrive des rêves dingues, où les sites internet qu'on visite en cascade aient pris la place des escaliers dans les rêves racontés par Nerval, ou alors qu'elle ait noté un nouveau motif onirique, un truc marrant, quoi. qu'au lieu qu'il rêve qu'il se retrouve à poil à l'école, et ben les gens rêvent maintenant que quand ils parcourent Instagram, ils se voient partout, tout nus sur les photos. Bon, manifestement, ça n'est pas le cas. Peut-être que notre inconscient a du retard, hein, d'ailleurs. Peut-être qu'il n'a pas encore intégré le numérique à son répertoire. Bon, en vérité, je ne sais pas bien ce qu'il faut en conclure. Mais il y a autre chose dont je ne sais pas bien ce que je dois en conclure. Quelque chose de très personnel et que je me mets à raconter à Clotilde Le Guil, sans doute parce que on est dans un cabinet de psy, hein, et puis parce qu'il y a Lacan là qui nous regarde depuis son tableau. Voilà, je vis une partie de ma vie dans les réseaux sociaux en particulier, Twitter, Facebook, Instagram, j'y passe du temps, je lis, je regarde, mais j'interagis très peu. Non seulement je poste très peu, mais je commente rarement, je like extrêmement peu. J'ai l'impression de fréquenter Internet en voyeur. Et donc, je voudrais savoir ce que ça dit, ce que ça révèle de moi, ce type de comportement.
Comment ça ?
Qu'est-ce que, à l'intérieur de vous-même, même si vous ne jugez pas...
Mais ça pose pas de... Enfin, ça vous pose un problème ?
Ah bah ouais ! Bah, c'est quand même un lieu où on est censé plus ou moins participer, si on fait juste que regarder, non ?
Bah, ça pose un problème si ça pose un problème pour le sujet.
Ouais, bah ouais, ça me pose un problème, je trouve ça bizarre de faire ça.
C'est-à-dire que, en fait, nous, on aborde ce qui pose problème à partir de ce qui pose problème au sujet. Voilà, on ne va pas dire, ah bah oui, les sujets qui font ça, c'est un problème. Voilà, on n'a pas des normes sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si un sujet va dire, je regarde, je voudrais poster, mais je n'ose pas poster, ce que je n'ai jamais entendu, parce que c'est pas...
Moi, ça me gêne, franchement, parce que j'ai cette tendance-là. J'ai cette tendance à regarder ce qui se passe dans les réseaux sans participer.
Bon, on en parlera.
pas sûr qu'on en parlera. Enfin, pas là. Merci à Clotilde Guil de nous avoir reçus dans son cabinet. C'était Benjamin Chauvin qui tenait la perche et pensait à ses lapsus téléphoniques. Réalisation Anne-Sophie Ladonne. Le Code a changé est un podcast de Xavier Delaporte en partenariat avec Faber Novel.